Vous êtes ici, dans l'ancien hameau de forestage de Roussillon en Morvan. Entre 1963 et 1966, ce lieu a accueilli une soixantaine de familles de harkis. En 2022, la Maison du patrimoine oral de Bourgogne est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu ici. Ils ont accepté de raconter leur histoire, de mettre des mots sur leur vécu, longtemps restés silencieux. Ces récits intimes, familiaux, nous racontent, de façon singulière, un chapitre important de notre histoire commune. C'est un grand honneur pour la commune de Roussillon-en-Morvan de pouvoir faire entendre leur voix aujourd'hui. Tahar Chiba avait 13 ans quand il est arrivé au camp de Roussillon-en-Morvan. Il nous raconte son histoire.
Je m'appelle Tahar. Je suis né le 21/07/1950 à Bin Bedouane, en Algérie. Mon père avait travaillé à l'armée française. Il a fait la guerre de 39-45 aux côtés de la France. Mon père a été engagé dans les harkis parce qu'il pensait que la France apportait le progrès. Il s'est engagé un peu pour ça et par nécessité, pour question de survie, quoi. La guerre, elle a commencé en 1954. Je devais avoir 4 ans. Et ma mère était femme au foyer. En tant qu'aînée, j'étais tout seul avec ma mère. Et donc, je compensais tout ce que mon père ne faisait pas à la maison, c'est-à-dire amener le bois, l'eau, et voilà. J'étais presque chef de famille, en fait. Ce qui manquait le plus à la maison, c'est le père. Il revenait de temps en temps. Quand il était en permission, une fois tous les 15 jours, tous les 1 mois. Mais sinon, ça se passait relativement bien, mais uniquement la journée, parce que la tombée de la nuit, on était obligé de partir de la maison, de dormir, par exemple, dans la forêt, dans les fossés, pour éviter les Français ou le FLN. Il fallait prendre parti, et puis comme on ne voulait pas prendre parti, on était obligé de sortir de la maison à la tombée de la nuit, quoi. À la fin de la guerre, je me rappelle, c'était un jour de fin juin, et moi j'étais à l'école, et je voyais la section venir, et je ne savais pas s'il s'agissait de l'armée française ou l'armée algérienne, en fait. Et petit à petit, plus ils approchaient, plus on a compris que c'était l'armée française. Et mon père, il était avec eux, avec la section. Et du coup, je suis rentré pour être avec mes parents, quoi, en fait. Et on avait juste du linge qui était étendu. Et on a pris juste quelques affaires. On est revenu avec la section française et mon père pour rentrer en France. À Alger, avant d'embarquer, c'était angoissant et stressant et avec beaucoup de peur parce que c'était une caserne militaire où le soir, le FLN, les gens, le peuple venaient et savaient qu'il y avait les harkis là-dedans et qu'ils venaient. Et avec des insultes, des tirs, des menaces, et on était vraiment, vraiment angoissés parce qu'à tout moment, ils pouvaient rentrer. Les gens ils étaient embarqués dans les cales comme des bestiaux, des uns sur les autres. C'était des bateaux de marchandises. Les conditions de traversée lamentables. Des gens qui vomissaient, qui n'avaient jamais pris le bateau, qui avaient le mal de mer. Alors, après la traversée du bateau, on est arrivé à Marseille. Là, j'avais l'âge de 12 ans. Et on a entendu après toute la journée pour aller à Port-Lastic, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, là, on est arrivé dans un camp, en tente militaire, où là, on est resté 5-6 mois, où il y a eu des épidémies, des conditions de logement vraiment désastreuses, quoi. C'est des milliers de personnes qui étaient là dans ce camp, que les gens ils étaient tous tombés malades, moi y compris. Et puis par la suite, elle a été encore rapatriée vers le Vigan, dans le département de la Vienne. Où là, on est arrivé dans un camp en dur, gigantesque. C'est un camp qui avait servi pour des prisonniers militaires, où on est resté encore une année. Et donc après, par la suite, on a été rapatrié dans le département de la Saône-et-Loire, dans le village de Roussillon-en-Morvan. On est arrivé le soir à Autun par le train et on était bien accueillis. De Autun, c'est des bus qui nous ont amenés au village de Roussillon. On est arrivé dans les baraques, il y avait des fleurs, je me rappellerai toujours, des fleurs sur la table, des roses. Et c'était la première fois que je vois un truc comme ça. J'avais l'âge de 13 ans, ça m'est arrivé en 63. Le camp de Roussillon était administré par un gars qui était un ancien militaire. Comme tous les militaires, c'était quelqu'un d'autoritaire, de vraiment pas avenant avec les harkis, quoi, que, voilà. Mais par contre, nous, en tant qu'enfant, c'était très bien pour moi, avec mon regard d'enfant. On allait à l'école, les parents y travaillaient. C'était, tout se passait bien avec les villageois, qui étaient sympas. On allait à l'école, on était là comme les autres, quoi, en fait. Voilà, où là, on est resté un an dans le village. C'était peut-être pour la première fois que je me sentais super bien.
Ahmed est arrivé avec sa femme à 25 ans à Roussillon-Morvan. Leur fille Sonia nous lit son témoignage.
Je m'appelle Mamed. Je suis née en 1938 dans la douare de Béni-Boudouane. Chez nous, il y avait un grand terrain. Avec les motos, le cheval, les vaches, on n'était pas malheureux. Mon père, il me disait de m'engager dans l'armée française pour sauver ma peau. L'armée française. S'ils ne te connaissent pas, passe pour quelqu'un du FLN. Et mon père, il craignait que le FLN arrive un soir et qu'il m'emmenait pour rejoindre le maquis. Pour mon père, c'était trop risqué de s'engager pour le FLN. Il disait qu'il n'était pas droit, qu'il avait beaucoup de jalousie, qu'il se tuait entre eux. Alors, il m'a donné ses économies, 20 000 francs, et m'a dit de partir pour aller trouver les Français. C'était en 1958. J'étais très jeune. J'étais comme un soldat français, avec les mêmes armes, les mêmes vêtements, jour et nuit. On partait en embuscade. On prenait l'hélicoptère pour aller dans les montagnes. C'était comme ça jusqu'en 1962. Des fois, j'avais des permissions. Je retournais chez mon père. Mais j'avais peur. J'avais peur que le FLN vienne la nuit, qu'il s'en prenne à mon père. Mais en même temps, j'avais les armes chez moi. Je partais en permission avec les armes. Au moment des accords d'Évian, en mars 1962, je me suis dit que ça y est, l'Algérie avait gagné, que la guerre était finie, que j'allais pouvoir retourner chez moi. J'ai suivi des gens qui m'ont dit que tout le peuple allait faire la fête avec le FLN. Quand j'ai retrouvé mon père, je lui ai dit que je ne voulais pas rester ici. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que la guerre était finie maintenant. Un jour, l'armée française est passée dans le village. J'étais avec mon cheval pour écraser l'orge. Quand j'ai vu l'armée, j'ai rentré mon cheval. J'ai pris mes affaires, mon argent, et je suis partie avec eux. Mon père, à ce moment-là, il n'était pas là. Quand il est revenu, j'étais déjà partie. Au moment de partir, J'ai cherché ma femme pour lui dire de venir avec moi. Et là, quelqu'un m'a dit qu'elle s'était sauvée, qu'elle ne voulait pas venir avec moi. Je l'ai retrouvée sur le chemin de la montagne. Je lui ai dit de venir avec moi. Je ne lui ai pas laissé le choix. Alors, on a retrouvé le lieutenant et on est parti. Il y avait au moins 20 camions avec des familles. On a fait le voyage en bas, dans les cales du bateau, jusqu'à Marseille. Là, on nous a envoyé un train à Bourg-Lastic, dans un camp de l'armée. On dormait dans des tentes. Ça a duré jusqu'à la fin de l'été 62. Puis après, on a été emmenés au Vigan. Presque jusqu'à la fin de l'année 1963. Puis après, on nous a emmenés à Roussillon. Je suis restée 3 ans là-bas. On nous faisait planter des sapins. On a construit une route dans la forêt. On a transporté des seaux de cailloux et qui étaient emmenés par les wagons et les camions, en travaillant toute la semaine, 8 heures par jour. Moi, j'étais bien à Roussillon. Là-bas, tout le monde était gentil. On était bien intégrés là-bas. On était gentils avec eux, ils étaient gentils avec nous. Toujours, ça se passait bien. À la poste, à la mairie, on pouvait même aller danser au bal au village. Je pouvais inviter des femmes à danser. Il n'y avait pas de jalousie. Personne ne m'a jamais dit un mauvais mot. Après, en 1966, ils ont fermé le camp. Tout le monde est parti. On est venu nous chercher en camion pour nous emmener à la gare. On est parti à Cannes et là, un camion de forestiers est venu nous prendre et nous a emmenés au camp de Moissartou. Mais moi, j'étais mieux à Roussillon, même s'il faisait froid.
Khedija et Ben Abdallah se sont mariés à Roussillon-Morvan. Leurs enfants, Catherine et Ahmed, nous lisent leur récit de vie.
Je suis fille de Harké, devenue femme de Harké. Je suis de la tribu des Beni Boudouen, comme le Bacha Gabou Alem. À la fin de la guerre, nous avons pu partir pour la France sans trop de problèmes. J'avais 14 ans. Nous étions en juin ou juillet 1962. Nous avons laissé toutes nos affaires, nos maisons, nos animaux domestiques. Mon futur mari, lui, avait même laissé toute sa famille. En arrivant en France, on a été envoyé comme des paquets au camp militaire de Bourg-Lastic. Le campement en toile de tente était dans la montagne. Nous cuisinions dans de grandes gamelles de l'armée en faisant du feu dans des trous que nous creusions dans le sol. Le bois, nous allions le ramasser dans la forêt. Le feu nous servait aussi à chauffer l'eau pour nous laver et laver notre linge. Dans les tentes, nous étions parfois plusieurs familles. Les grandes familles de 8 à 10 enfants étaient seules. Les petites familles étaient obligées de partager leur intimité avec des étrangers. Tout le monde pouvait rentrer dans le campement, sans sécurité et sans moyens pour nous protéger. Au début, nous avons vécu quelques drames. Des gens du FLN de France avaient tué des Harkis. Les militaires avaient enfin compris que nous étions en danger en France et qu'il fallait nous protéger. Ils s'organisaient pour faire des gardes la nuit. Petit à petit, nous sommes sentis en sécurité, mais nous vivions comme des misérables. Les gens étaient déprimés. Certains avaient perdu une grande partie de leur famille en Algérie. L'hiver arriva vite dans notre montagne. Il faisait très froid sous les tentes que nous n'arrivions pas à chauffer. Les gens tombaient malades, des enfants en bas âge mouraient. 6 mois après notre arrivée, on nous a remis dans des camions militaires pour nous envoyer dans le sud de la France. C'était une caserne près de Bordeaux. Nous sommes restés là quelques mois avant d'être à nouveau dispersés. Ceux qui s'est débrouillé bien, parce qu'ils savaient lire et écrire, étaient partis vers le nord ou la région parisienne. Ils avaient trouvé tout seuls du travail et un logement. Avec mes parents et d'autres familles, nous avons été envoyés à Roussillon-en-Morvan près d'Autun dans le département de Saône-et-Loire. C'est dans un hameau de Harki que mes parents m'ont mariée. Je me sentais trop jeune pour ça, mais chez nous, ce sont les parents qui décident pour leurs enfants. Je voulais aller à l'école, mais mon oncle en décidait autrement. C'était mon destin et j'acceptais ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est là aussi que j'ai eu mes deux premiers enfants, Abdelkader et Kera. J'étais très jeune quand j'ai eu mes enfants. Je me souviens d'un médecin qui s'inquiéta pour ma santé. Je n'ai jamais su son nom. Nous vivions comme des animaux. Sans instruction, nous étions comme dans un brouillard. Le déracinement et l'inconnu rendent sourds et aveugles. Maintenant, je me sens plus vigilante et je sais mieux communiquer avec mon entourage. Nous sommes restés dans ce lieu jusqu'à la fin des années 60. Après, nous avons été de nouveau dispersés. Certains sont allés retrouver le Bachag Boualem. Nous, nous sommes partis au camp Le Timgad à Monsartou. Nous avons vécu de longues années dans le camp de Monsartou. C'est là que j'ai mis au monde mes autres enfants. C'est la misère au quotidien. C'est Allah qui m'a donné le courage pour faire face aux problèmes qui ont jalonné ma vie. Je le remercie de m'avoir bien guidé pour élever mes enfants. Avec les autres harkis du camp, mon mari travaillait pour l'Office national des forêts, l'ONF. L'hiver, il nettoyait et reboisait les forêts. Et l'été, il luttait aux côtés des pompiers professionnels. Mon mari, encore très jeune, meurt d'un accident de travail qui n'a jamais été reconnu comme tel. Je n'avais pas encore 40 ans et j'avais encore plusieurs très jeunes enfants à élever. L'ONF n'avait pas assuré les harkis, ils n'étaient pas considérés comme des pompiers. Les harkis, après avoir été considérés comme de faux soldats, devenaient de faux pompiers. Depuis ce malheur, heureusement, on les a assurés. Mon mari n'a malheureusement jamais revu son pays ni sa famille. Maintenant, il repose au cimetière tout près du château d'eau, qui fait face au camp.
Je m'appelle Ben Abdellah Djouari. Je suis né au cours de l'année 1939, dans le massif montagneux de l'Ouarznis, au sud-est d'Alger, dans le douar de Beni Boudouane. Dernier d'une fratrie de 5 enfants, j'ai perdu mon père très jeune. Nous vivions dans la misère de la campagne algérienne. En décembre 1959, alors que j'avais 20 ans, j'ai rejoint la Harka rattachée au 3e régiment d'artillerie de marine pour combattre aux côtés de l'armée française en guerre contre le FLN. Au début de l'été 1962, j'ai abandonné tout ce que j'avais en Algérie, ma maison, ma mère, mes frères et mes sœurs. Le cœur lourd, j'ai dû fuir les persécutions du FLN contre celles et ceux qui avaient collaboré avec l'armée coloniale. Cet exil, cet abandon de celles et ceux que j'aimais, jamais je ne réussirai à m'en remettre. Avec d'autres harkis et leurs familles, j'ai pu rejoindre la France dans la cale d'un bateau, malgré l'interdiction de Pierre Messmer, ministre des armées de l'époque. Marseille, puis très vite, avec d'autres de Beni Boudouane, le camp de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, le camp, les tentes militaires, à n'en plus finir. On était là comme des bêtes, tous les déplacements se faisait de nuit. Après ça, on nous a amenés près de Poitiers. Encore plusieurs mois d'attente. En janvier 1963, je décidai d'acquérir la nationalité française. Je savais que l'Algérie était maintenant derrière moi. En juillet 1963, une partie d'entre nous a été conduite en Saône-et-Loire. On a pris un train pour la ville d'Autun, puis emmené par de petites routes dans le village de Roussillon-Morvan. Un baraquement m'a été attribué sur le camp. On était un peu à l'écart du village. Le camp était à côté du cimetière. C'est ici que j'ai rencontré Khedija. Son père, Ali Abdelkader Nemeri, m'a proposé de la prendre comme épouse. À la fin de l'été, le 31 août, nous avons célébré notre mariage devant le maire de Roussillon. Nous avions eu notre premier enfant, Abdelkader, puis Catherine. Tous les deux sont nés à Autun et ont passé leurs premières années dans la misère de ce camp. La vie était loin d'être simple. Je connaissais très peu de monde et me sentais un peu à l'écart des autres. Le travail était dur. Chaque jour, nous partions dans la forêt avec d'autres hommes du camp. La guerre et l'exil me hantaient. Ils ne me laissaient jamais tranquille. J'ai dû plusieurs fois être emmené à l'hôpital de Bourg dans l'Ain pour y être interné. Je n'arrivais pas à supporter tout ça, c'était trop dur. Le traumatisme de la guerre, ainsi que l'abandon de ma famille en Algérie, avait laissé des traces qui ne seraient jamais effacées. Après la fermeture du camp de Roussillon-Morvan, j'ai appris que l'Office national des forêts embauchait d'anciens harkis. J'ai donc choisi de partir pour rejoindre Montsartou, dans les Alpes-Maritimes. Dans le sud de la France, j'ai retrouvé un bout de mon dehors que je chérissais au plus profond de moi. C'est là que mes autres enfants sont nés. Françoise, Claudine, Ahmed, Valérie, Hamid et Barta. Je partageais mes journées entre le travail, la vie à la maison et les longues parties de domino au café du village avec mes compagnons de fortune. En dépit de mon manque de maîtrise de la langue française, j'arrivais toujours à me faire comprendre. À l'été 1988, nous avons déménagé dans un petit pavillon qui deviendra ma dernière demeure. Accéder à la propriété était pour moi la consécration de toute une vie de labeur. La misère du camp n'était qu'un loin et mauvais souvenir pour moi et ma famille. Courant du mois de février 1989, nous avons été réquisitionnés par le Conseil général pour combattre un incendie de forêt à Saint-Martin-de-Vésubie. Ce 16 février 1989, alors que nous nous déplacions en file indienne, une pierre s'est décrochée d'une paroi pour venir se fracasser sur ma tête. Malgré cet accident qui m'a coûté la vie, aucune responsabilité de mon employeur. Malgré le rapport accablant de la médecine du travail qui conclut que je n'aurais pas dû être là et qu'aucune habitation n'était en danger et aucune vie non plus. J'avais fui ma terre natale pour échapper au FLN et je suis venu mourir dans cette forêt du sud de la France.
Quider est arrivé en France avec sa femme en 1962. Il avait 21 ans. Leur fille Françoise nous lit son témoignage.
Je m'appelle Quider Djeguerif. Je suis née en décembre 1941 en Algérie. Je viens de la région de Bini Bidouane. Là-bas, ma famille était propriétaire d'un grand terrain, plus de 40 hectares. On avait des animaux, des chèvres, des moutons, des chevaux. Il y avait des oliviers, des figues, des châtaignes, la moitié, c'était la forêt. En 1954, c'était le début de la guerre. Le FLN était prêt à se battre. D'un côté, certains se faisaient dénoncer à l'armée française pour avoir donné de l'argent au FLN. Alors, les militaires, ils venaient la nuit pour les arrêter et les emmener en prison. Certains sont restés enfermés jusqu'à l'indépendance. D'autres ont disparu. Et de l'autre côté, certains étaient dénoncés pour avoir travaillé avec les Français. Et là, le FLN pouvait arriver la nuit pour t'emmener et te tuer. C'était ça, l'Algérie. C'était pas une guerre, c'était un règlement de compte. Quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de rentrer dans l'armée française. J'y suis resté pendant 4 ans. J'ai été blessé pendant la guerre. J'ai reçu des balles de mitraillette dans la jambe. Après les accords, on a été désarmé. On nous a donné une permission d'un mois. Mais quand on est retourné à la caserne, un mois plus tard, il n'y avait plus rien. On ne savait pas ce qui s'est passé. Mais très vite, des gens qui avaient travaillé avec les Français se sont fait tuer. D'autres sont rentrés directement en France. Le 5 juillet 1962, j'ai quitté l'Algérie avec toute ma famille. On s'était mariés en 1959 avec ma femme. On est entré en France par Marseille, puis on a été emmené au camp de Bourg-Lastic. On y a passé 3 mois, puis on a été emmené au camp du Vigan, puis après à Roussillon, en Morvan, jusqu'en 1965. Après, on nous a emmenés à Montsartou. À Roussillon, on ne connaissait rien. On nous a laissé 2 semaines pour nous installer dans les baraques. Puis, on nous a emmenés dans la forêt pour travailler. Il y avait de l'électricité, mais pas de l'eau chaude. Il n'y avait pas de chaudière. On chauffait avec la poêle à mazout ou à bois. Au camp, il y avait un couple. C'était les chefs, des anciens Français d'Algérie. Quand un enfant naissait au camp, la femme nous disait qu'on devait donner un nom français, pas un nom arabe. La France, elle est restée 133 ans en Algérie. Tu crois qu'il y avait un Français qui aurait appelé son enfant Mohamed ? Alors oui, on avait le droit à la nationalité française. Mais ça ne sert à rien du tout. Un arabe reste un arabe et un Français reste un Français. Ça n'a jamais changé, ça. Ici, le travail en forêt, à l'ONF, c'était pire qu'en Algérie. Ici, on a été forcés de travailler dans la forêt. Mais nous, on n'y connaissait rien. Ils venaient nous chercher en camion. Dans le hameau, il n'y avait pas le choix. On faisait du débroussaillage dans la forêt. Mais à l'époque, il n'y avait pas de machine. C'était à la serpe. Et à la hache, c'était très dur. Très dur. On travaillait plus et on était mal habillés. On avait du mal à manger. Dans les draps, il y avait des cafards. Mais avec les gens de Roussillon, il n'y avait aucun problème. Avec le boulanger, avec le boucher, avec le berger, il n'y avait aucun problème. En tout, ça a fait plus de 20 ans passés dans les hameaux forestiers.
Monsieur Nemri est arrivé en France à 25 ans. Colette et Patrice, ses enfants, nous lisent son témoignage.
Je m'appelle Ahmed Nemri, je suis né le 8 décembre 1937 en Algérie. Je suis arrivée en France en 1962. On m'installe d'abord dans un camp militaire à Bourg-Lastic, dans le Puy-de-Dôme. Je n'y reste pas longtemps. Très vite, je pars pour Roussillon en Morvan, en Seine-et-Loire. Là-bas, on travaille sur les chemins communaux, on refait les routes, on entretient les accès au village. C'est un premier vrai travail. Avant cette traversée de la Méditerranée, je vivais en Algérie, dans la région de Beni Bidouane. À l'époque, ça fait encore partie du département d'Orléansville, un territoire français. En 1963, je commence à travailler à l'Office national des forêts, l'ONF. C'est là que je fais ma carrière. J'y reste jusqu'en 1999, l'année où je prends ma retraite. En 1966, je m'installe à Moinsartou avec ma famille. On est logé dans le camp, j'ai déjà mon permis, j'ai une voiture. Alors je descends faire les courses, parfois à Cannes, parfois juste au village, et souvent j'emmène mes voisins avec moi. Mon travail à l'ONF se fait toute l'année. En été, on surveille les forêts contre les incendies avec les pompiers. En hiver, on part en forêt pour l'élagage, le débroussaillage, les coupes. On travaille aussi sur les îles de Lérins, Saint-Honorat et Sainte-Marguerite. À Saint-Honorat, là où vivent les moines, on nettoie les abords, on entretient les sentiers, on y va deux fois par semaine.
Parfois plus.
Les religieux sont simples, discrets.
Respectueux.
Ils ne parlent jamais de religion avec nous.
Mais ils ne savent d'où on vient. Ils savent qu'on vit à Moinsartou, qu'on est musulman. Il y a un respect de la part et de l'autre. Mais c'est sur l'île Sainte-Marguerite qu'on passe le plus de temps. Là-bas, on plante des arbres, des pins, des eucalyptus. C'est nous qui plantons la grande allée d'eucalyptus. Je m'en souviens, comme si c'était hier. En 1970, une tempête arrache tout. On ramasse les troncs, on les empile, on les charge dans les camions. Notre chef, M. Vallée, appelle l'état de bois le mur de Berlin. Il est responsable des deux îles. C'est aussi sur l'île Sainte-Marguerite qu'on découvre un vieux cimetière musulman, oublié, envahi par les herbes. À côté, il y a le carré militaire des soldats de guerre de la Crimée. Bien entendu, on demande pourquoi ce cimetière musulman, lui, est laissé à l'abandon. Personne ne nous a ordonné de faire quoi que ce soit, mais on décide de le nettoyer nous-mêmes. C'est une question de respect. Je suis retourné sur l'île il y a longtemps maintenant. Aujourd'hui, certains eucalyptus sont morts ou très abîmés. J'ai le sentiment que la forêt est moins bien entretenue qu'à notre époque. Il me reste les souvenirs, ce travail, ces îles, ces arbres qu'on a plantés. Ça fait partie de ma vie. Le temps passe, mais la fierté reste. On a laissé quelque chose derrière nous.
Youssef avait presque 6 ans lorsque sa famille a dû quitter l'Algérie, un an après la fin de la guerre. Il nous raconte son histoire.
Alors, je m'appelle Youssef, je suis né le 6 avril 1957 à Beni Boudouane, en Algérie. Bon, mon père, il était engagé dans l'armée française, il a fait l'Indochine. Je crois qu'il est resté 10 ans en tant qu'engagé, il a fait... Voilà, jusqu'aux événements. On est parti un an après les événements, en 63. Pour mon père, c'était un peu difficile de couper le lien familial. C'est un peu dur de quitter son pays. Et puis, par la force des choses, ça devenait un peu trop risqué pour mon papa. Il y avait des cousins qui voulaient le tuer, parce que dans la famille, il n'y avait pas qu'un parti, il y avait plusieurs partis. C'est un cousin à mon père qui était au FLN, et il en voulait beaucoup à mon père, et il a cherché plusieurs fois pour lui faire du mal, et donc on a été obligé de quitter un an après. À la fin de la guerre, nous, moi j'ai de vagues souvenirs, c'est qu'un soir, on est venu nous chercher. On est parti en pleine nuit, à dos de mule. Après, on a été récupéré par l'armée française. On a traversé toute l'Algérie jusqu'à Alger en camion militaire. Puis là, on a embarqué, je crois. J'avais 5 ans et demi. Alors, après... On a atterri dans le camp de Revizalt. On n'est pas resté longtemps, on est resté, je crois, 6 mois. Et c'est mon oncle qui était arrivé un an auparavant, qui est venu nous chercher avec son cousin. Il nous avait trouvé une petite maison en Saône-et-Loire, à côté du camp de Roussillon à Morvan. Et on est resté peut-être 6 mois aussi. Et après, on a été admis au camp de Roussillon-Morvan avec mon oncle, avec toute la communauté de Beni Boudouane. Je suis rentré à l'école à Roussillon-Morvan. Bon, on n'est pas resté trop longtemps, peut-être 2 ans. C'est après que quand je suis retourné, que j'ai vu que ça avait bien changé quand il est mort, mais que c'est tout grand, tout... Et là, quand tu reviens, c'est petit. En 2019, j'ai décidé de partir à Roussillon-Morvan pour revoir le peu de temps que j'ai passé là-bas, mais pour revoir, ça me manquait de revoir l'histoire, quoi, de où j'ai vécu. Voilà. Il y a des trucs que... Je ne savais pas, que je ne connaissais pas, et grâce à la maison du patrimoine, j'ai su beaucoup de trucs, parce qu'il y avait, des rapports, il y avait des dossiers sur nos parents, il y a des trucs qui ne nous faisaient pas plaisir, parce que quand on est gamin, on ne fait pas attention, mais quand on est un peu plus vieux, on nous appelait les indigènes, le chef de camp, là, qui était un peu strict et qui était sévère avec nos parents, ben moi, ça ne me fait pas plaisir. Voilà. Mais c'est l'histoire.
Vous venez d'écouter les voix de Tahar, Sonia, Catherine, Ahmed, Françoise, Colette, Patrice et Youssef, accompagné d'une musique originale de Théophile et Augustin Laveau. Leur récit s'appuie sur une enquête menée par Laurie Darrou, Théophile Laveau, Caroline Darrou et Fatima Benassilankou. Un grand merci à Khedija Djouari, Kouider Djegrif, Mohamed Seljoun, Henri Nemri, Tar et Youssef Chiba pour leur confiance et la richesse de leurs témoignages. Merci aussi à Ahmed Djouari et Fatima Benassilankou pour leur soutien tout au long du chemin. Et puis un grand merci aux municipalités de Mouans-Sartou et d'Anneau, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants pour leur appui. Ce podcast vous est proposé par la commune de Roussillon-Morvan. Il a été produit par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne et réalisé par Dénia Chébly.